Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est jamais évident d'encaisser autant de buts dans un même match. Mais comme on le répète souvent, il y a un dicton qui dit mieux vaut en prendre qu'un en un match qu'une fois quatre buts.
Je n'aimerais pas la télé, mais maintenant, ouais, s'il devrait y avoir un gagnant, un match nul, ce serait bien.
Pour gagner les matchs, il faut marquer des buts.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RMC. Quelle joie de vous retrouver en ce vendredi 7 août. Le programme, nous avons la chance d'avoir une interview exceptionnelle d'Amine Gouiri, le Marseillais actuellement en stage aux Pays-Bas. On parlera également d'Akliouche qui a décidé de quitter la Côte d'Azur pour Paris. Est-ce qu'il peut s'imposer au PSG? Gauthier Hain également s'est confié auprès de Maxime Tilliette, le nouveau Niçois. Et puis on parlera évidemment du Mercato. Il y a beaucoup de choses. Vinicius qui reste au Real Madrid et qui s'inscrit dans la durée. Et le Barça qui pourrait piquer Rodri alors qu'il était en partance pour le Real, mais ça reste l'Espagne en tout cas. Et puis on parlera également de Boadi qui pourrait également quitter notre chère Ligue 1, direction la Première Ligue et Manchester City. Ils sont là, ils sont studio parce qu'eux ils travaillent pendant l'été. C'est monsieur David Guzman et Elton Mokolo. Ça va les garçons?
Salut Karine, comment ça va?
Eh bien écoute, retour au Bercail, à la maison RMC, donc tout va bien.
Et on travaille tout le temps,
vous.
On est des staccanovistes, ouais, on a même fait une émission la veille de Noël tous les trois, donc on s'arrête pas, nous. Football ne s'arrête jamais.
Et du coup, on te pose cette question, comment étaient les vacances?
Les vacances étaient excellentes. Ouais. Elles ont été beaucoup trop courtes, comme toutes les vacances, hein, c'est logique, mais c'était génial. Et d'ailleurs, on embrasse tous les gens qui, notamment, nous écoute sur la route des vacances, que hier soir moi je reprenais la route Saint-Tropez direction Paris et je vous écoutais avec Christophe Plenet. J'écoutais RMC et j'écoutais l'after, je me régalais. Donc toutes les personnes qui sont évidemment en voiture, soyez prudents, écoutez bien RMC.
N'accélérez pas trop pour un avis tranché, peut-être un peu trop.
Calmez-vous, tout va bien, on passe deux heures ensemble, on est en direct, soyez prudents bien évidemment.
Et du coup on me dit comment va Dodu?
Alors Dodu va très bien, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu malheureusement parce qu'il est avec son père. Tu sais, c'est le principe des gardes alternées. Hein, voilà, et l'été ça marche aussi, la garde alternée. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas vu mon gigot d'amour. Mais en tout cas, j'espère qu'il va bien et j'espère que je vais vite le retrouver. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous pour vous accompagner pendant vos vacances ou aussi pendant le travail. Parce que évidemment, au mois d'août, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, mais il y a aussi des travailleurs. On va se régaler pendant deux heures. Messieurs, nous allons commencer cette émission avec une interview exceptionnelle. Et elle concerne l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup d'actualités autour de Marseille. Les Marseillais sont d'ailleurs en stage de pré-saison aux Pays-Bas. On rappelle évidemment que Marseille sort d'une saison ratée, pas de Ligue des Champions, de grands changements à l'intersaison. Le président, le directeur sportif, l'entraîneur, tout ça a changé. Et nous avons la chance ce soir d'avoir Amine Gouiri, qui est l'invité exceptionnel d'RMC Sport dans l'After Foot. On va évoquer avec lui la situation évidemment de l'OM, le fait que tout le monde est à vendre, son statut dans le club olympien et aussi sa Coupe du Monde avec l'Algérie où les Fenech ont été éliminés en 16e de finale par la Suisse. On accueille Amine. Bonsoir Amine.
Bonsoir.
On est aux côtés de Valentin Germain et de David de Glusman. Amine, racontez-nous un petit peu ce contexte particulier. Vous êtes actuellement en pleine préparation aux Pays-Bas et dans le même temps, eh bien voilà, tout le monde est à vendre à l'Olympique de Marseille. Donc comment ça se passe?
Franchement, très bien. Hein. On fait abstraction de ce qui se dit. Nous, on bosse jour par jour. On a une très bonne ambiance, on bosse très bien, tout le monde est content et on fait notre travail.
Quand vous avez appris que Bruno Genesio rejoignait l'Olympique de Marseille, il était comment votre sourire? Grand ou très grand? Parce qu'on sait qu'il vous a mis en valeur déjà par le passé.
Ouais, il était grand, ça faisait plaisir. Après, je savais qu'il aimait ce genre de défi. C'est la troisième fois qu'il me coach, que je le côtoie. Et je sais qu'il aime bien le club, il aime bien le stade Vélodrome. Je sais qu'il est, c'est un passionné et c'est pour ça qu'il est venu ici.
Amine, justement, pour parler de Bruno Genesio, qu'est-ce que vous attendez de votre saison avec lui après un exercice dernier un peu compliqué, votre blessure, c'était pas votre meilleure saison statistique également. Quelles ambitions vous vous êtes fixées et en quoi il peut peut-être vous aider à vous relancer entre guillemets?
Bah après déjà, là, je me concentre sur la préparation, c'est ma première semaine. Faut que tu gères un peu la Coupe du Monde, la saison dernière. Mais non, je sais comment il bosse, il me connaît très bien, il me connaît depuis que j'ai l'âge de 15 ans, donc je ne me fais pas soucier là-dessus. Et pour l'instant, je suis très content d'être ici. Il m'apporte beaucoup et on se parle beaucoup depuis que je suis revenu. Et on verra match par match, parce qu'on a déjà un match qui arrive dimanche. Et ensuite, pour préparer le championnat.
Et justement, Amine, vous nous dites qu'il vous connaît bien et il vous définit comment ? Comme un attaquant de pointe, un attaquant de pointe à deux attaquants, un joueur, un attaquant intérieur un peu côté gauche, là où vous avez été performant ?
Ça, j'en ai pas parlé avec lui, mais j'ai joué tous les postes. Moi, je pourrais jouer à tous les postes, que ce soit devant, derrière l'attaquant à gauche. Et il le sait très bien parce qu'il m'a fait aussi jouer dans tous ces postes-là. Mais j'ai pas eu encore cette discussion-là avec lui.
Amine Gouiri, le joueur de l'Olympique de Marseille et international algérien et l'invité exceptionnel d'RMC Sport. Amine, votre statut a-t-il forcément changé si vous restez à l'Olympique de Marseille? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mouvements. Les deux meilleurs buteurs de la saison passée, que ce soit Greenwood et Aubameyang, sont partis. Donc, est-ce que vous devez endosser un nouveau rôle? Est-ce que vous devez devenir le leader d'attaque de l'Olympique de Marseille version 2026-2027?
J'ai envie de dire oui. Pour l'instant, je suis ici, je suis sous contrat. Après, je suis pas le seul attaquant, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver aussi. Mais oui, bien sûr. Après, comme j'ai dit, je suis encore sous contrat. Et comme vous savez, surtout dans le foot, on ne sait pas ce qui peut se passer, surtout dans cette situation. Mais non, bien sûr. Je pense que c'est normal. Ça fait maintenant 2 ans que je suis ici, donc ce serait la suite logique.
Amine, est-ce que justement votre avenir il est clair ou est-ce que la porte elle est ouverte à un départ? En tout cas, à vous entendre, vous dites je suis sous contrat, mais est-ce que c'est clair dans votre esprit que la porte est ouverte? Comment vous vivez ces choses-là?
J'ai entendu dire que la porte elle est ouverte pour tout le monde, mais que ce soit clair ou pas, vous savez, dans une saison, on peut être amené à rester et au final on part et vice-versa. Donc pour l'instant je suis là. Je me concentre sur ma préparation et on verra par la suite.
Est-ce que vous avez déjà vécu un été comme ça où vous dites la porte est ouverte à tous? Comment on s'adapte peut-être à se dire que la moitié des copains sera partie dans une semaine? Est-ce que c'est particulier? Est-ce que vous avez déjà vécu ça?
Non, peut-être qu'il y en a qui vont partir, peut-être que... Non, après c'est le football, hein, malgré ce genre de situation. Même s'il n'y a pas ce genre de situation, il y a quand même des joueurs qui partent et qui restent. Donc on est concentré sur notre préparation. Et ça ne nous dérange pas plus que ça parce que c'est la vie de footballeur et il faut s'adapter.
Amine, partons du principe que vous allez rester. Est-ce que vous avez un objectif comptable en fait en tête? Parce que c'est vrai qu'on vous a fait le reproche par le passé d'être un peu inconstant, que même au sein d'une saison, d'avoir des très bons trimestres, des trimestres un peu plus compliqués. Est-ce que vous, pour vous motiver, vous avez des chiffres, vous avez des stats en tête et des objectifs à atteindre?
Bien sûr, c'est important pour un attaquant. Après, c'est le plus important, c'est le contenu, c'est le collectif. Et j'essaie de jouer pour l'équipe et d'être décisif. Mais oui, bien sûr, c'est important pour un attaquant d'avoir des belles statistiques pour aider l'équipe. Mais je ne me prends pas la tête par rapport à ça. Je sais qu'en bossant, ça va venir tout seul.
Et ce serait quoi des belles statistiques, donc?
Ah, ça, je le garde pour moi.
Vous voulez pas nous dire un 10-10 ou un 15-15,
un
par exemple?
Un double-double, on dit en NBA.
Ouais, un double-double, c'est pas mal, un double-double.
Mais à quel niveau?
Plus de minutes que de passes décisives parce que je reste attaquant quand même.
Bon, eh ben voilà. Amine, comment vous définiriez la saison passée? Parce qu'il y a eu cette blessure pendant plusieurs mois au niveau de l'épaule. Il y a eu évidemment un contexte très particulier à l'Olympique de Marseille. Tout a changé à l'intersaison. On rappelle hein, le trio qui décide à changer. Nouveau président, nouveau directeur sportif, nouvel entraîneur. Et puis il y a eu aussi une Coupe du Monde compliquée avec l'Algérie. Donc c'est quoi? Il a fallu évacuer tout ça. Dans quel état d'esprit vous êtes là actuellement?
Non, très bien, j'ai évacué tout ça. Après, ça fait partie, comme j'ai dit, de la vie de footballeur, hein, c'est comme ça. J'ai déjà eu des changements de coach par le passé, en pleine saison, donc ça ne m'a pas plus affecté que ça. C'est juste qu'il faut adapter et qu'il faut toujours garder une ligne de conduite, tout simplement.
Quelles ambitions collectives sont fixées à l'OM? On comprend qu'on est globalement sur peut-être quelque chose à la baisse par rapport à la saison dernière où on parlait forcément de Ligue des Champions. Quelles sont les ambitions du club pour la saison à venir?
Toujours la même, c'est d'être européen, c'est toujours pareil. Je pense que Marseille, ça reste attractif et ça reste un grand club. Donc Marseille doit jouer le premier rôle tout simplement.
Est-ce que la direction est venue vous expliquer un peu la situation, un peu plus en détail, vous donner un peu plus d'informations concernant la stratégie à suivre, ou justement essayer de vous rassurer sur la ligne de conduite que le club comptait tenir?
Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais moi comme je vous l'ai dit, c'est ma première semaine, donc je suis parti directement en stage, donc pour le moment, non.
On rappelle qu'Amine Gouiri est en stage actuellement aux Pays-Bas avec le reste de l'Olympique de Marseille. Ils sont en pleine préparation. Amine, est-ce que Bruno Genesio, que vous connaissez parfaitement, qui vous a lancé en tant que professionnel, que vous avez retrouvé à Rennes et donc là maintenant à Marseille, vous donne un rôle particulier? Est-ce qu'il compte particulièrement sur vous parce que vous connaissez déjà? Est-ce que vous allez être peut-être un capitaine, un vice-capitaine? Voilà, est-ce que vous devez prendre une envergure différente vu vos rapports et vu le fait que vous connaissez déjà très bien?
Ah bah ça c'est à lui qu'il faudra poser cette question. Mais après oui, moi je suis prêt maintenant, j'ai l'expérience, je parle de la Ligue 1, je parle des vestiaires, donc non, bien sûr. Mais après je pense que cette question là elle est pour lui.
Vous en avez pas parlé déjà alors que vous connaissez bien et que vous avez voilà une relation qui est déjà établie par rapport à d'autres joueurs qui eux découvrent Bruno Genesio?
Si on parle, mais pas, je pense qu'on n'a pas encore parlé de ça, parce que comme vous le savez, on est en période de mercato et je pense qu'il attend de voir la fin du mercato pour justement parler de ça.
Et on pourrait voir un Amine Gouiri un peu plus encadrant, un peu plus cadre de vestiaire, même avec les plus jeunes, parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs joueurs du centre de formation qui avaient donc été lancés en match amical. C'est un rôle qui vous plairait, ça?
Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je suis passé par là et ouais, bien sûr, j'aime bien donner des conseils. Et il y a des très bons jeunes, donc on va essayer de les aider.
Amine, vous êtes arrivé à l'Olympique de Marseille lors du mercato hivernal en fin janvier 2025. Aujourd'hui, on est en août 2026. Comment vous pouvez juger votre passage à l'Olympique de Marseille? S'il y avait une note à donner à Amine Gouiri à Marseille, ça serait quoi actuellement?
Si j'avais une note à donner, je pense que je me mettrais quand même la moyenne, hein, ou un peu plus. Après, on peut toujours mieux faire. Mais moi, je pense que la moyenne ou un peu plus serait, je pense.
Vous avez été affecté par tous les changements internes l'année dernière. C'est vrai que c'était une saison sous pression avec énormément de nervosité. Est-ce que vous, personnellement, ça vous a surpris ou affecté durant la saison dernière?
Oui, je pense que, en fait, tout joueur, on aime bien la stabilité, bien sûr. C'est normal. Tu commences avec un coach, tu vas finir la saison comme ça. Après, c'est les aléas du football. Comme je dis, par le passé, j'ai connu ce genre de choses. Et après, on sait que Marseille, ça fait plus parler que d'autres clubs. Mais il faut s'adapter. Et comme je dis, il y a un coach qui part, il y a un coach qui arrive. Donc, il faut vite garder sa ligne de conduite pour continuer à avancer. Mais après, ça fait partie du football. Donc, ça ne m'a pas plus affecté que ça, on va dire.
Et concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait changer, j'allais dire, par rapport à la saison dernière? Un peu plus de calme, peut-être, autour du club. Quels ingrédients, concrètement, il faudrait changer, selon vous, pour que ça marche?
Moi, je pense que c'est... mettre du calme, je pense, autour de l'équipe, je pense à l'intérieur, parce que ça, Marseille, ça reste un grand club, ça va toujours faire parler. On a les meilleurs supporters de France, donc c'est normal que ça passe, c'est un grand club. Mais ouais, je pense qu'il faut mettre du calme entre nous, à l'intérieur, pour rester calme et avoir une ligne de conduite et pour bien bosser.
Un dernier mot peut-être sur votre Coupe du Monde. Vous avez été titulaire sur les trois matchs de poule, sorti en 16e. Est-ce que c'est décevant? Est-ce que vous auriez aimé mieux? On sait que le sélectionneur également est parti. Voilà, comment vous avez vécu ça?
Ah oui, c'est normal. En tant que footballeur, c'est normal. On veut toujours jouer. Après, c'est les joueurs du coach. On les respecte. Et je pense qu'on avait... On pouvait mieux faire, je pense, sur ce match, on pouvait, je pense, aller plus loin dans cette compétition, mais bon, c'est comme ça, on va prendre de l'expérience.
Amine, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Amine Gouiri, international beaucoup, algérien et joueur de l'Olympique de Marseille, invité exceptionnel d'RMC Sport. Merci beaucoup Amine, belle saison. On rappelle les merci objectifs beaucoup, évidemment, il y a des matchs amicaux encore, ça sera à Marseille, ça sera face à l'Atlético de Madrid et face à l'Athletic Bilbao, et puis la reprise du championnat le 21 août en ouverture, Marseille face à Strasbourg. Marseille qui est évidemment en quête de rachat, messieurs, après cette saison ratée, on va en parler. Il y a également aussi beaucoup de pression quand même autour de Bruno Genesio. Il vient d'arriver, il était en conférence de presse toujours aux Pays-Bas pendant ce stage. Il a été interrogé sur tout ce qui se passe, que c'est vrai que c'est particulier. Là, quand on écoute Amine Gouiri, on a du mal à être sûr que justement, pour la reprise le 21 août face à Strasbourg, ou en tout cas au 31 août, ils sont encore Marseille. On sait que c'est open bar, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive avec une offre, tout le monde est à vendre à l'OM Elton, donc c'est quand même compliqué cette situation-là.
On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, ce contexte est quand même compliqué pour travailler, parce qu'on est là parfois sans être là, mais ils ont le devoir de rester compétitifs jusqu'à ce qu'il y ait une offre potentielle. Après, c'est vrai que tout le monde ne pourra pas partir, et ça, ils doivent l'intégrer. Et donc, je pense que du côté d'Amine Nguéry, pour faire référence à lui, on est déjà davantage focus sur ce qui va se passer contre Strasbourg, avec l'idée, bah, dans un premier temps, de bien réussir le début de saison avec l'Olympique de Marseille, et puis s'il y a affinité. Mais c'est vrai que on aurait aimé du côté de l'Olympique de Marseille d'avoir un groupe entre guillemets fermé pour la saison 2026-2027. Après, on dit ça. L'été d'avant, quand l'Olympique de Marseille était dans une situation économique sportive beaucoup plus entre guillemets enviable, c'était quand même il y avait quand même beaucoup d'allers-retours. Donc je pense pas que ça va changer énormément de choses pour l'effectif olympien, mais c'est vrai que ça c'est pas la meilleure des manières pour attaquer cette saison, une saison qui est quand même la saison du rachat.
La saison du rachat, après avoir raté la Ligue des Champions, après être en grande difficulté financière, on va en reparler dans quelques minutes, parce qu'il y a notamment Mehdi Benassia, lui l'ancien directeur sportif, qui avait des grandes ambitions avec Marseille et qui s'est raté, qui dit ses vérités dans France Football. C'est à découvrir dès demain, mais il y a déjà quelques petites sorties assez croustillantes, et notamment quelques règlements de compte avec Pablo Longoria. David, trois départs dans le secteur offensif, Greenwood, Traoré, Aubameyang sont plus là. On parlera plus tard notamment du secteur défensif qui va aussi a priori être un petit peu décimé. Est-ce que Amine Nguéry il peut devenir le leader d'attaque? Il n'y a pas Chao, mais il y a lui.
En fait, Amine Nguéry, c'est un dilemme comptable et sportif. C'est-à-dire que du point de vue comptable, c'est un joueur qui a été acheté pour une somme tout à fait raisonnable, qui a déjà été amorti pendant un an et demi comptablement, et qui peut potentiellement dégager, si on considère un prix de vente qui serait logique, entre 20 et 25 millions d'euros, une plus-value significative. Mais si je me mets à la place du club, à la place de Genesio, à la place d'Amine Nguéry, moi j'aurais vraiment envie de rester, parce que le duo Genesio-Guiri, qui n'a jamais autant performé en Ligue 1 que sous Genesio, notamment dans le 4-4-2 avec Arnaud Kalimuendo en 2022-2023, je me dis que tu gagnes quand même du temps avec Amine Nguéry. C'est une valeur sûre de Ligue 1, même si il est pas très très constant, et t'as déjà un entraîneur et un fer de lance offensif qui se connaissent, qui savent chacun les façons de travailler respectives. Et Guiri, même dans une saison un peu compliquée comme l'année dernière, il te garantit tout de même un plancher de performance et un plancher statistique qui te coûtera très cher à retrouver.
Donc, ouais, mais pour autant, du côté d'Amine Nguéry et de Bruno Genesio, là, il y a un contexte qui est totalement différent. Il y a un contexte qui est beaucoup plus compliqué, parce que c'est l'Olympique de Marseille, et surtout Amine Nguéry, de par son ancienneté. Je dis de par son ancienneté, ça ne fait qu'un an et demi qu'il est du côté de l'Olympique de Marseille.
Ah, bah là, c'est un vieux briscard à Marseille, vu que tu restes six mois ou un an et tu dégages.
Donc, on va davantage le regarder en tant que leader d'attaque. Et ça, c'est un rôle. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit le rôle le plus indiqué.
Là, il y a une chose que les dirigeants ont pour l'instant réussi, Stéphane Richard en tête, c'est de faire passer, de faire infuser même le message auprès des supporters de la cure de rigueur, de la saison plus ou moins de transition, parce que t'as vu Amine Nguéry, il nous parle même plus d'objectifs européens, parce que dans les premières sorties de l'état-major olympien, on nous parlait quand même d'une qualification en Coupe d'Europe, pas forcément la plus petite, c'est ce que Bruno Genesio avait dit, alors que là, vraiment, la période de vache maigre est vraiment entrée dans les esprits. Donc que Amine Nguéry ait une énorme pression cette année, moi franchement je suis pas vraiment certain. Au contraire, ça peut être une saison où certes il est leader d'attaque, mais on n'attend pas énormément de lui.
On sait comment ça se passe à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire Strasbourg, match au Vélodrome, numéro 9, il sera particulièrement attendu, parce que j'insiste, là cette fois-ci il n'y a plus d'Aubameyang, il n'y a plus de Greenwood, des catalyseurs de pression, des leaders offensifs, là on va davantage...
Mais c'est pas Chao et lui là, qui sont attendus devant.
Donc là, en plus, il a évoqué en creux, notamment sur son ancienneté, et je dis son ancienneté, il n'a que 26 ans par rapport à la nouvelle génération, son ancienneté en Ligue 1, ça va faire quoi? Ça va faire sa 7e saison Ligue 1 entre Lyon, Nice et Rennes et l'Olympique de Marseille, bien évidemment. Donc forcément, on va le regarder, parce qu'aujourd'hui, dans un contexte difficile, Guiri doit briller.
Mais il y a quoi comme marché, Guiri, en fait? Vraiment. Demain, 25 millions. Il est vraiment
PL. 25 millions, c'est déjà très bien, en fait.
Non, mais quel marché il a? Où il pourrait aller, en fait? C'est non, moi je me pose la question. PL, club moyen de PL, est-ce que vraiment il a un profil PL?
Surtout qu'il a un style qui est quand même spécifique, numéro 9, mais pas tellement numéro 9. Ah,
peut-être un peu plus performant en attaquant intérieur côté gauche, donc il a un profil un peu hybride. Je sais pas, je m'interrogeais en fait durant l'entretien quand tu nous disais que bon, clairement il serait pas opposé à un départ, il a accepté la réalité du marché. Où pourrait rebondir sans hors destination exotique à Mingouiri.
Non, je te dirais beaucoup plus un championnat latin type Espagne, Italie. Alors davantage Espagne.
Villarreal. Clairement dans un 4-4-2, Villarreal, 25 millions. Sociedad, Villarreal.
Encore faudrait voir Villarreal.
Sur 25 millions.
Non, parce que je pense que ça va être le prix. Je pense pas que ça explose.
Mais 25 millions, c'est déjà bien. Il y a une plus-value, hein.
Oui, tout à fait. C'est ce que je te dis.
Alors,
en fait,
toi, tu sais, pour Villarreal, alors j'extrapole, mais en fonction de l'avenir d'Amico Tadze, qui pourrait être un candidat au départ.
C'est ce que je te dis.
Villarreal, ça pourrait être une solution, oui. Et moi, j'ai
profil
vraiment
de joueurs à la relance historique, des Moreno, des Ayose Pérez, ça a du sens.
Mais c'est beaucoup plus sur un style championnat latin, parce que Première Ligue, je vois pas où il aura marché.
Mais après, hors Première Ligue. Et hors championnat exotique, je m'excuse en fait de l'emploi d'un mot un peu péjoratif pour qualifier ces championnats, les clubs qui payent, il n'y en a pas énormément qui payent ce montant. Oui. T'as peut-être la Bundesliga, mais encore une fois, est-ce qu'il est Bundesliga compatible? Je suis pas forcément ultra d'accord, donc oui, l'éventail de clubs pouvant se le permettre, c'est restreint.
C'est restreint par rapport aussi à la valeur marchande aussi.
26 ans pour Amine Gouiri, on le rappelle. Le stage donc actuellement du côté des Pays-Bas. Ils ont fait 4 matchs amicaux et Bruno Genesio est forcément très sollicité. Et notamment, il doit répondre aux supporters qui sont inquiets parce que la saison, c'est la saison du rachat et c'est aussi une saison avec une cure d'austérité. Il y aura beaucoup moins de moyens cette année. On écoute Bruno Genesio.
Je leur dis que je les comprends. Il faut qu'ils soient patients, même si je sais que c'est jamais simple dans notre métier. On est conscient que c'est pas l'idéal. Entendre qu'un tel va partir quasiment chaque jour, c'est un moment différent. Je vais pas vous dire que c'est l'idéal pour un entraîneur ou pour un groupe ou pour des supporters. Ce serait mentir. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que nous, notre ambition, elle est d'avoir une équipe compétitive pour le championnat parce qu'on est à Marseille, parce que le club se doit d'être ambitieux. Et quel que soit le groupe qu'on aura au 31 août, on aura des valeurs. Après, je suis pas voyant. Je ne sais pas ce qui se passera au niveau des résultats dans la saison, mais en tout cas, il y aura des valeurs et des valeurs qui correspondent, je pense, à l'esprit des supporters marseillais.
Bruno Genesio qui reste quand même positif. On avait eu par le passé ce trio infernal Longoria, Benassia, Deserbi où c'était tout le monde nous en veut, on est seul contre tous. Là, on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus apaisé. Il dit ça va être compliqué, mais on va faire le maximum. On va essayer de donner aux supporters avec les moyens du bord.
Mais surtout, Karine, par rapport à cette interview par rapport à cette déclat public, pour moi, il y a un changement. À savoir que ça va être pour moi l'enjeu de la saison de Bruno Genesio. Il va avoir une double casquette, entraîneur de l'Olympique de Marseille, et c'est déjà très exigeant, mais également porte-parole de l'Olympique de Marseille, parce que autant, tu l'as évoqué, on avait un trio qui aimait bien s'exprimer dans les médias,
mais trop s'exprimer,
Longoria, Benatia, De Zerbi, autant là il y a Bruno Genesio, mais en ce qui concerne le directeur sportif Lorenzi et Richard, on est plutôt sur de la discrétion, ce qui, entre guillemets, va donner beaucoup plus, entre guillemets, de poids médiatique à Bruno Genesio sur sa capacité à emmagasiner ce rôle de porte-parole. Parce que je suis pas sûr que ce soit Richard et que ce soit Lorenzi, ils vont spontanément se présenter devant la presse pour parler notamment de l'actualité marseillaise, parce qu'ils ont beaucoup à faire.
Moi, je suis assez impressionné en fait par la réaction et le flegme de Bruno Genesio. Bruno Genesio, qu'on a aussi vu régulièrement par le passé, assez grincheux quant au manque de recrues. On se souvient en fait, l'hiver dernier, il y avait une peut-être pas une passe d'armes, mais il y avait de la friture sur la ligne avec Olivier Létang à ce sujet. Et ce rôle, Elton, que tu décris un peu de porte-parole, je suis absolument certain qu'il va l'adorer parce que Bruno Genesio, on va pas se le cacher, c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Souvent, il se disait ah mais regarde, moi je suis pas assez mis en valeur. À chaque fois qu'on parle d'entraîneur pour des hauts postes, on pense jamais à moi. Quand il avait gagné le titre d'entraîneur de l'année France Football, il avait été un peu ironique en disant ah bah tiens, il faut que je gagne le titre d'entraîneur de l'année pour que. Et donc en fait, ça va être un défi, ajouter une corde à son arc. Et moi, je suis certain qu'il peut bien s'en sortir dans ce rôle.
Moi, pour l'instant, c'est le contexte qui est calme, c'est la rentrée des classes. Et moi, j'attends au premier trimestre. Ça veut dire quoi, au premier trimestre, si ça va pas pour l'Olympique de Marseille? Moi, je pense que le rôle de porte-parole, entre guillemets, officieux, de l'Olympique de Marseille pour Bruno Genesio, ça peut clairement le consumer.
Mais après, il va aller au feu, Stéphane Richard. Stéphane Richard, c'est quelqu'un
qui... Mais il est pas là pour ça. Ah, Stéphane Richard, dans un monde idéal, il doit diriger l'Olympique de Marseille. Ah, on doit pas le voir dans les médias.
Non, mais en cas de crise, Stéphane Richard, qui a quand même géré des situations de crise chez Orange, bien plus grave.
Ah, mais avec des conséquences humaines.
Bien plus grave. Je suis absolument certain que si il y a des réactions démesurées, ou s'il y a une spirale négative à enrayer, ou un message à faire passer, Stéphane Richard montera au front. Après, tu prends pas quelqu'un de son calibre pour qu'il reste dans les bureaux et qu'il se planque derrière les rideaux.
Le but c'est qu'il soit pas visible.
Je te dis qu'il le sera si besoin est.
Là, pour moi, on parle d'un sport particulier, on parle de football à l'Olympique de Marseille. Et football à l'Olympique de Marseille, le rapport à la défaite, on l'a suffisamment décrypté, suffisamment détaillé. La défaite, elle est trop sensible à Marseille. Et je ne suis pas sûr qu'en fait, tous ces nouveaux personnages puissent, entre guillemets, dès la première saison, emmagasiner tout ça, être en capacité de répondre en tant que...
Mais je te dis pas qu'ils le feront bien, mais celui que tu n'entends pas, c'est Franck McCourt, et c'est pour ça qu'il nomme un président délégué. Donc c'est justement à ce président délégué, qui est quand même rompu aux règles de la communication et de la communication financière, c'est quelqu'un qui a évolué dans différents ministères. Je suis absolument certain que Genesio ne sera pas seul au front toute l'année. Est-ce qu'il va devoir plus s'exprimer, plus endosser ce côté sportif? Oui, mais on prend pas quelqu'un du calibre de Stéphane Richard pour justement le laisser dans un bureau. Ça, moi, je ne peux pas le croire.
Tu parlais de Franck McCourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille. On apprend aujourd'hui par nos confrères de l'équipe qu'il aurait encore injecté 120 millions d'euros lors de l'année 2026. C'est complètement délirant. On rappelle dans le détail qu'il parle de 50 millions, notamment en février, de 70 millions en juillet. Donc, ce sont encore des sommes colossales. Et on rappelle que depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, il n'y a pas eu un exercice sans déficit. Donc c'est dire s'il a quand même perdu beaucoup d'argent depuis qu'il a racheté l'Olympique de Marseille, c'était en 2016. On va continuer à écouter Bruno Genesio parce qu'il est question de mercato. On le sait, à peu près tout le monde est à vendre à l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, il y a que deux clubs qui n'ont pas eu de renfort pour l'instant, c'est Marseille et l'Athletic Club dans les cinq grands championnats. Donc c'est dire si aujourd'hui à Marseille, c'est compliqué financièrement.
Il y a des contraintes en plus généalogiques.
C'est beaucoup plus spécifique pour recruter Basse.
C'est pas les mêmes problèmes. C'est clairement, de toute façon, il faut vendre, il faut faire rentrer de l'argent et après on verra ce qu'on peut faire dans le sens des arrivées. On écoute Bruno Genesio sur ce mercato particulier.
Nous aussi, on a envie de voir de nouveaux joueurs arriver. On a aussi envie de conserver certains joueurs parce que on parle beaucoup de mercato, mais il y a aussi un groupe avec de très très bons joueurs qu'on a envie de conserver. Après, il y a la réalité aujourd'hui économique que tout le monde connaît et qu'on peut pas occulter, nous, techniciens. Mais forcément, oui, on est tous un petit peu impatients d'avoir un effectif qui se construit petit à petit pour ce premier match de championnat, que ce soit du côté des départs ou des côtés arrivés.
C'est quand même très compliqué d'imaginer l'équipe qui sera alignée au Vélodrome le 21 août. Tu sais absolument pas qui sera le gardien, la charnière, le milieu, l'attaque. Il y a un gros point d'interrogation.
C'est la conséquence de ta saison 2025-2026 où tu as raté ta qualification en Ligue des Champions, ce qui te conduit notamment à avoir une urgence économique et donc une urgence sportive au moment de construire ton équipe. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la déclaration de Bruno Genesio, c'est davantage sa deuxième partie. Il se concentre davantage sur le fait de vouloir conserver les joueurs beaucoup plus que recruter. Et pour moi, c'est une indication qui est quand même particulière parce que en l'état actuel, on a fait beaucoup de débats sur l'Olympique de Marseille et son effectif actuel. C'est un effectif qui est en capacité pour jouer l'Europe. On va pas se mentir là-dessus. Mais maintenant, et là dans l'esprit de Bruno Genesio, si tu venais à perdre des joueurs, et quand on parle des joueurs susceptibles d'avoir une valeur marchande, on ne parle pas nécessairement des remplaçants, là, ce serait une perte sportive qui serait beaucoup plus importante pour lui.
Supporters marseillais, on vous attend au 32-16. Évidemment, on va continuer de parler du mercato marseillais, puisque trois joueurs sont également en partance. On a parlé des joueurs offensifs, on parle maintenant de derrière. Roulé qui pourrait partir, le gardien de but, Medina et Aguerd, les deux défenseurs. Donc Marseille continue de se faire potentiellement piller par la concurrence. On est ensemble jusqu'à 22h, on est en direct sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'after foot.
Karine Galli.
On est ensemble sur RMC avec David Gluzman, avec Elton Mokolo. Deux heures pour parler évidemment de l'actualité du football. Vous pouvez retrouver également sur rmcsport.fr l'interview exclusive d'Amine Gouiri, le Marseillais qui s'est confié alors qu'ils sont actuellement en stage aux Pays-Bas. Mais si on va parler du mercato, parce qu'à Marseille, tout le monde est à vendre et ça continue. Facundo Medina, on parle de 23 millions plus 2 millions en bonus direction l'Allemagne. Le Bayer Leverkusen, il aura passé une seule saison à l'Olympique de Marseille. Et une saison qui est quand même évidemment très moyenne parce qu'il était arrivé blessé, parce que la défense marseillaise a pris l'eau. Et au final, Marseille peut faire quand même une plus-value. Expliquez-moi, parce que vous, oui, vous me dites, ouais, parce on que en toi, a parlé un petit peu en off, que c'est normal.
Mais c'est une saison qui est cauchemardesque pour Medina par rapport à son intégration, par rapport à la saison sportive de l'Olympique de Marseille.
Et Marseille fait une plus-value.
Mais parce que Medina, il est sur un profil, et je ne rigole pas, recherché sur le marché des transferts. Et je pense que le meilleur ambassadeur du transfert de Medina à venir du côté de Leverkusen, c'est la sélection argentine lors de la Coupe du Monde. Parce que je pense qu'il s'est revalorisé à travers cette Coupe du Monde où il a été titulaire dans un premier temps. Il est entré en finale. Il a fait plutôt bonne figure sur cette finale de Coupe du Monde. Et moi, je n'oublie pas qu'avant Medina à Marseille, il y a eu Medina à Lens. Et que c'est
justement, tu sais pas s'il passe le step ou pas, parce qu'à Marseille, ça a été une saison tronquée.
Non, mais parce qu'en fait, Marseille, on est sur un contexte qui est tellement particulier. On a vu des joueurs qui sont passés par Marseille qui n'ont pas été bons, ça ne les a pas empêchés derrière d'aller briller sous d'autres couleurs. Moi, je pense que Medina peut s'inscrire totalement dans ce contexte-là. En gros, il va du côté de Leverkusen avec un entraîneur contre qui il a joué sur plusieurs saisons de Ligue 1, je fais référence à Martinez Novel. Et en ce sens, Medina en Allemagne, dans un cadre beaucoup plus sain que Marseille, il peut performer.
Mais Alid, à l'époque, l'an dernier, on trouvait tous que c'était une bonne idée. Medina, qui était transféré de Lens à Marseille, ça devait être une progression et c'était le profil de joueur qui allait complètement être en adéquation avec ce que Marseille a besoin. Et finalement, ça n'a pas marché. Toi, t'es pas surpris qu'avec une saison ratée, parce qu'il y a aussi les blessures, bien évidemment, et ça, on peut pas lui enlever, le pauvre, il est arrivé blessé, il gagne 5 millions. Enfin, potentiellement, Marseille va arriver jusqu'à 5 millions de plus.
Quelle est ta lecture économique par rapport au transfert à venir?
Ah, ma lecture économique, c'est que c'est un super coup pour l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire une plus-value sur un joueur qui, de toute façon, parce que je pense que Elton a omis de parler de l'aspect tactique, qui ne correspondait pas vraiment au schéma de Bruno Genesio, et qui, moi j'étais surpris à l'époque de son recrutement, et surtout du prix de son recrutement, et de la rapidité de son recrutement, dans la mesure où De Zerbi voulait faire jouer dans un rôle un peu hybride, de troisième défenseur en phase de possession,
sur le côté gauche,
alors que Medina, on voit que ça faisait plusieurs saisons qu'il était beaucoup plus à l'aise dans une défense à 3, gauche dans une défense à 3, et il va rejoindre Martinez Novel, qui met régulièrement en place une défense à 3, qui va certainement le faire jouer à son poste de prédilection. Donc non, je suis pas forcé. Si j'avais été le Bayer Leverkusen, connaissant la situation économique de l'Olympique de Marseille, j'aurais peut-être essayé de négocier un peu plus bas. Mais après, Karine, c'est un joueur qui a une vraie cote, qui est international argentin. Et peut-être que le Bayer Leverkusen, en allant chercher ses 5 millions, c'est les 5 millions de la tranquillité, en disant, bah écoute, moi je le sécurise maintenant, avant la frénésie de la fin de Mercato. C'est quelqu'un qui est international, que mon entraîneur connaît, qui va complètement être adéquat par rapport à mon système à 3. Pourquoi pas?
Ouais, parce qu'il y a aussi le contexte Leverkusen. Ils ont pris énormément d'oseille sur les deux dernières saisons. Je veux dire.
Mais d'accord, mais c'est pas pour ça qu'il faut que tu le redistribues à tout le monde.
Non, mais justement, t'en as. Et Marseille en est conscient. Et du côté de Marseille, ok, tout est à vendre, mais il faut aussi se respecter. Les joueurs, ils ont une certaine valeur. Et Medina, je rappelle, il a un statut de vice-champion du monde.
Non, mais surtout que l'OM, en fait, d'un point de vue comptable, encore une fois, Medina, c'était pas le premier sur la liste. C'est pas le joueur qui pouvait te dégager une plus-value comptable hyper rapide. Donc Marseille pouvait être assez ferme sur Medina. Il y a d'autres joueurs qui étaient déjà amortis depuis plus longtemps, même des joueurs qui ont été acquis pour rien, les deux Anglais, qui auraient, eux, pu te générer une plus-value comptable beaucoup plus rapide.
C'est simple, sur le mercato olympien, t'as trois joueurs sur qui tu peux, à la limite, pousser le curseur. Il y en a un, c'est Greenwood, il est parti. Medina et Balerdi. Pour le reste,
ouais, mais Balerdi, au contraire, moi je suis pas d'accord, Elton. Balerdi, ça fait tellement longtemps qu'il est chez toi, c'est quelqu'un qui a une cote sur le marché, oui, et qui a zéro dans tes livres. Balerdi, pour moi, c'est le premier joueur que j'arrive à Marignane.
Balerdi,
c'est 20 barres de plus-value comptable,
Elton. Ce que je veux dire, Balerdi, t'as encore la sécurité du contrat.
Mais Balerdi, c'est peut-être la plus grosse plus-value comptable dans les livres de l'OM.
Oui, mais
et c'est ce qui compte pour l'UEFA. Oui. C'est vraiment ce qui compte pour l'UEFA.
La plus-value, elle serait quand même beaucoup moindre que s'il avait été vendu l'été dernier, comme
complètement d'accord.
Il était espéré du côté de Marseille parce qu'il avait fait une bonne saison, il a fait une cote, mais les sommes demandées
étaient
folles.
Mais là, maintenant, t'es dans l'urgence et les trois joueurs, à mon sens, que moi je sortirais, c'est les deux Anglais que t'as, que c'est un super coup. Mehdi Benassi, on va peut-être discuter demain de la pertinence de son d'Angel Gomez et CJ Egan Rielly.
Mais ils ont pas leur marché, il est très 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 restreint.
Non, mais t'as toujours un marché de report en Championship. Et Egan Rielly, tu peux avoir
des offres. Egan Rielly, là, par exemple, à avoir 20 millions, ce n'est pas possible.
Non, mais t'auras 7 ou 8 et ce sera 7 ou 8 de plus-value comptable. Là où je te dis, pour moi, l'autre joueur où tu peux te faire un peu mal en le gardant, c'est Tim Weah, dans le sens où Tim Weah, il est polyvalent, il est important, il a été acheté relativement cher l'année dernière, et je suis pas sûr en fait.
Et il a fait plutôt une bonne saison.
Il a fait une bonne saison avec un comportement par. Là, ok, d'accord. Mais Balerdi, mais même à 15, je le sors.
Ah non.
C'est 15 millions de plus-value comptable.
Il faut que l'histoire s'arrête.
Ouais, mais pas n'importe quel prix.
Oui, d'accord.
Pas n'importe quel prix.
Mais on sait aussi que la saison passée a été très éprouvante pour lui et que ça va être compliqué peut-être de retrouver le niveau qu'il a eu avant, parce que l'an dernier, ça a été vraiment un chemin
pur choix comptable. Et tu dois satisfaire l'UEFA. C'est avec cette réflexion qu'il faut que tu gardes en tête.
Oui, vraiment. Mais ça, on l'a expliqué pour d'autres joueurs. Mais maintenant, du côté de l'Olympique de Marseille, j'entends notamment la lecture comptable, mais j'entends aussi le fait que si tu as la possibilité d'aller chercher ces 5-10 millions qui peuvent faire la différence, il faut le faire.
Messieurs, donc Facundo Medina, il va partir. C'est pas encore officiel, mais bon, c'est la tendance. On parle également de Haggard qui a été blessé, lui aussi. Il a eu une pubalgie en partance pour la Real Sociedad. Donc là, c'est pareil, en fait. Ces joueurs, tu sais même pas qu'ils sont arrivés à l'Olympique de Marseille. C'est terrible.
Mais Haggard, il a été mal acheté. Il n'aurait jamais dû
s'inscrire dans l'histoire de l'OM.
Haggard ne correspond pas à la réalité économique d'un club français hors Paris Saint-Germain.
Haggard, c'est simple, tu l'achètes à découvert.
Haggard, tu payes plus 23 millions d'euros pour un joueur quasi trentenaire qui a un passif de blessure relativement impressionnant, qui va jouer la CAN, qui va jouer la Coupe du Monde, et tu lui donnes un gros salaire, mais en fait tu ne coches aucune case. Alors il a été performant tant qu'il était en forme, mais dans la réalité économique d'un club français, tu dois même pas engager des négociations avec son agent.
Ça s'est passé à Guerre, c'est le fruit d'une urgence.
Oui, c'est le 1er septembre 2025 c'est le dernier jour.
T'as tergiversé et finalement t'as abandonné la piste ordonnée. T'étais sur un début de saison qui était compliqué, t'avais un De Zerbi qui mettait la pression publiquement, et en gros tu te dis tu vas recruter un joueur d'expérience et t'as la solution à garde. Mais le fait est que, comme tu le dis, c'était un transfert qui n'était pas à faire, parce que l'Olympique de Marseille à l'époque et encore plus aujourd'hui n'est pas mature économiquement pour accueillir ce type de joueur s'il ne performe pas. La chance aujourd'hui, c'est que Haggard a pu être performant du côté de la Real Sociedad, et en ce sens ils se disent que en le relançant,
mais c'est un super joueur. Il a la chance d'être un super joueur.
Mais attention, du côté de la Real Sociedad, ils sont aussi conscients que un an s'est écoulé, et donc par rapport à ça, sur la
Ligue des Nations, c'est quand la Real Sociedad, j'ai lu.
Mais ce serait une folie.
On continue dans le secteur défensif. Rulli également qui est en partance. Donc là, il reste plus personne à Marseille. Bon, Rulli également qui a eu une saison très compliquée. Il est arrivé en 2024, première saison très bonne. Il avait même surpris par rapport à son niveau. Et l'an dernier, ça a été très difficile pour l'Argentin. Il faut que ça s'arrête aussi. C'est mieux pour tout le monde.
Même pour lui, parce que.
Dans ce cas-là, s'il faut que ça s'arrête pour Rulli, je suis d'accord avec toi. Pourquoi il ne faut pas que ça s'arrête pour Balerdi? Il a vécu
une
saison horrible.
Non, mais moi je suis totalement d'accord, sauf que Balerdi, il a 27 ans, si je dis pas de bêtises, c'est un 99. Rulli, il est 193, il a 33 ans.
Les perspectives
Il a 34 ans. Les perspectives ne sont pas les mêmes, et donc en ce sens, le libérer pour être deuxième gardien du côté de Manchester City,
c'est une petite indemnité,
en sachant que tu l'as pas acheté non plus très très cher, c'est pas le même enjeu que Balerdi, que tu as entre guillemets valorisé d'une certaine
manière. Rulli, c'est très bien. Moi, ce qui me dérange, c'est le coût de remplacement. C'est que j'entends des rumeurs Guillaume Reste, mais tu vas essayer d'aller négocier avec Toulouse Guillaume Reste après que Toulouse est vendu pour quasiment 100 millions d'euros.
C'est pas possible.
Ah bah bon courage. Surtout que tu vois le poste de gardien à quel point il est ultra spécifique. Ils ont essayé Marcin Bulka, mais Marcin Bulka, il prend 6 millions net. Donc sortir un joueur d'Arabie Saoudite, à moins qu'il soit complètement non inscrit sur les listes, c'est quelque chose de très compliqué. Delange.
Moi, je suis pragmatique aujourd'hui.
Mais pourquoi tu continuerais pas avec Delange? Il a joué
Moi,
je suis pragmatique. Fait aujourd'hui, Delange, c'est la conséquence de ta réalité économique et sportive.
Autant Delange titulaire dans les buts.
Delange titulaire dans les buts
la saison.
Peu importe ce qui va se passer. Parce qu'en gros, on peut le dire maintenant, peu importe ce qui va se passer, parce que c'est la conséquence de ta réalité sportive et économique au 7 août 2026.
Et surtout que toutes les pistes abordables qu'auraient pu être pertinentes avec un Delange numéro 1, numéro 1, un bis comme Moridio que tu peux te dire, tu le prends comme doublure de Delange si ça se passe pas bien. Si ça se passe pas bien. Mais bon, Lille a eu la bonne idée pour pousser un peu aux fesses leur gardien de but. Donc, le poste de gardien, moi, ça me fait un peu plus peur parce que les opportunités de marché sont tout de même moindres et le coût de remplacement est relativement élevé.
Après, Delange, il a vécu le fiasco du 5-0, on rappelle, hein, plus grosse défaite dans l'histoire d'un classique au Parc, mais sinon, quand il a joué, il a été plutôt performant. Enfin, voilà, c'est pas une folie de l'imaginer titulaire.
À tel point qu'il a poussé une réflexion où, en gros, on le voyait numéro 1 quand Rouli n'était pas performant.
Il revenait de sélection, à chaque fois, c'était Delange qui jouait, etc.
Exactement, il y a eu le match contre Nice qui avait été mis en avant, mais c'est vrai que Delange, je demande d'avoir sur toute une saison, en sachant qu'il faudra avoir de l'indulgence par rapport à lui, parce que gardien de l'Olympique de Marseille, pardon, c'est pas si simple.
On rappelle effectivement que Rouli, lui, devrait partir à Manchester City. C'est quand même exceptionnel pour lui.
Non, c'est très bien. C'est en plus, historiquement, City, quand qualitativement, ils vont quand même passer de James Trafford, qui pour moi est pas loin d'être le meilleur gardien anglais, à Geronimo Rulli. Donc, je pense que eux, ils perdent au change. Mais oui, pour Rulli, c'est quasiment inespéré. Surtout quand on connaît la qualité des doublures, Stéphane Ortega, Claudio Bravo. Historiquement, il y a quand même du côté de James Trafford, des doublures de grande qualité. Ah ouais, on va peut-être en parler au moment de Boisdier. City, encore un peu en train de baisser en qualité cette année, je trouve.
Après, bon, il jouera peut-être un petit peu la Coupe, et voilà.
Il jouera à Carabao Cup, il jouera la Cup. Donc,
il aura un match de Ligue des Champions, ouais, quand City aura 18
points. Il aura sa dizaine, voire sa quinzaine de matchs, si tout va bien, du côté de Manchester City.
On rappelle que l'OM débute donc le 21 août, c'est le premier match, vendredi 21 août, face à Strasbourg. Est-ce que vous avez le sentiment que ça pourrait être la saison du rachat, comme à l'époque, vous savez, quand il y a Eli Bob, c'est bon,
Villas-Boas.
Oui, Eli Bob, ça faisait 10 ans qu'à chaque mercato, on l'annonçait à Marseille, et finalement, un beau jour, il a signé, et il avait terminé deuxième. Alors, c'était pas très beau, c'était beaucoup de victoires 1-0 ou avec un seul but d'écart, mais au final, Marseille avait eu une saison du rachat réussie avec une deuxième place au classement.
Oui, je suis convaincu de ça. C'est l'histoire de l'Olympique de Marseille sur ces dernières années. Cette capacité à être là où on ne les attend pas forcément avec une équipe remaniée, une équipe qui paraît affaiblie, mais il y a encore des individualités. Et je répète et j'insiste, la chance de l'Olympique de Marseille, c'est qu'on est dans une Ligue 1 où il y a une faiblesse structurelle, où la plupart des équipes vendent avant de recruter, donc de facto s'affaiblissent. Donc la réalité de l'Olympique de Marseille, c'est aussi la réalité d'autres équipes. Donc je pense que l'Olympique de Marseille ne va pas regarder les autres équipes en étant dans un complexe d'infériorité. Dès les premiers matchs de championnat, tu dois montrer que t'as de l'ambition, tu veux être européen et aller chercher le meilleur classement possible.
Mais surtout que le mercato de l'Olympique de Marseille, il n'a pas commencé, Elton. Enfin, le mercato de l'Olympique de Marseille, ce sera les deux dernières semaines, voire les 72 dernières heures. En fait, c'est si ça. Tu veux, mais le mercato d'énormément de clubs de Ligue 1, ce mercato-là, pour les clubs dans la réalité de l'Olympique de Marseille, ce sera un mercato de report. Ce sera un mercato où tu vas t'asseoir par terre et tu vas attendre en fait que les restes de la table de la première ligue débordent et tombent et tu vas regarder ce que tu peux faire. Mais il y a énormément de super coups à faire. La dernière fois, on va pas en faire un avis tranché, ou peut-être plus tard dans l'été, mais j'ai fait défiler tous les effectifs de première ligue. Mais t'as moyen de faire des coups, mais clé en main en Ligue 1.
Et t'as pas encore appelé Greg Lorenzi, qu'est-ce que tu fais?
Non mais je pense qu'il est, enfin, en plus Greg Lorenzi, il passait maître dans l'art des bons coups de fin de mercato. Je me souviens de Koulibaly, je me souviens de Kamore Doumbia, je me souviens de très bons coups de fin de mercato.
Et puis très sincèrement, Lorenzi, sur les champs des possibles entre Brest et Marseille, aujourd'hui il doit être plus content d'avoir un champ des possibles un peu plus élevé du côté de l'Olympique de Marseille, parce que je continue de penser que ça a une valeur d'arriver à l'OM. Et donc il y a des perspectives intéressantes. On a parlé de la Ligue 1, il y a aussi l'Europa League. C'est quand même un cadre compétitif.
Surtout que c'est un test de caractère. C'est-à-dire que tu mets l'OM sur ton CV, t'as réussi à l'OM sur ton CV.
Sur les dernières saisons, il n'y a que des ratés quasiment. Et des joueurs qui ne restent pas.
Ça dépend lesquels. Il n'y a pas non plus que des erreurs de recrutement.
Il y a des joueurs qui ne se sont pas du tout imposés. Parce que là, on a parlé des joueurs qui sont partis, mais il y a des joueurs qui étaient en prêt, comme Pavard, qui sont repartis, etc.
Oui,
petit tour et puis s'en va.
Pour moi, en fait, si tu veux, ce qui peut faire un peu mal au storytelling que l'OM peut vendre, c'est Nwaneri. où vraiment Noah Neri, énorme espoir anglais, il arrive avec des promesses de temps de jeu. Et alors ça marche pas parce que De Zerbi se fait rapidement sortir. Mais une histoire un peu à la Hendrick Lyon, Noah Neri Marseille, ça aurait pu placer Marseille sur cette carte européenne des clubs capables en fait de forger le caractère et de relancer.
Ça l'avait fait avec Saliba.
Non, mais est-ce que t'as intérêt à faire ça aujourd'hui du côté de l'Olympique de Marseille, notamment te positionner sur ce mercato de jeunes?
C'est ça que t'as eu Saliba avant.
Sur ce mercato de jeunes joueurs, pour moi, je pense pas que ce soit le bon cadre.
On rappelle donc les prochains rendez-vous pour Marseille, ce sont des matchs amicaux. Il y aura au Vélodrome l'Athletic Bilbao le 9 août, puis l'Atlético de Madrid le 14, avant la reprise du championnat le 21 août. Marseille qui a terminé 5e la saison passée et qui jouera donc la Ligue Europa. Dans quelques instants, on reste dans le sud, direction Nice. Gauthier Hein, le nouvel aiglon, s'est confié au micro de Maxime Tillette. On en parle dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
On est ensemble sur RMC, l'afterfoot avec David Gussman, avec Elton Mokolo, avec vous au 32-16, mais aussi sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. On parle du sud dans cette heure de l'afterfoot. On a parlé de l'Olympique de Marseille. On va prendre la direction de Nice, où il y a un homme chanceux qui vit sous le soleil toute l'année. C'est Maxime Tillette. Salut Maxime.
Salut Karine, David Elton, bonsoir.
Salut
à
Max.
Tous.
Salut Max.
Maxime, tu as eu le plaisir de rencontrer un nouvel aiglon, Gauthier Hein, deuxième recrue pour l'OGC Nice. Raconte-nous cette rencontre et les ambitions de Gauthier Hein qui arrive après une saison évidemment très compliquée au FC Metz, le FC Metz qui a été relégué en Ligue 2.
Oui, Gauthier Hein, un garçon très sympathique qui incarne en fait le virage pris par le gym cet été, parce que voilà, après tous ces paris ratés sur les derniers mercato, bah le gym est allé chercher plutôt des certitudes. Je pense à Laurent Bergel, première recrue qui a été libérée par Lorient cet été, et donc là voilà, Gauthier Hein transféré de Metz pour 1 750 000 euros, et ce montant va grimper jusqu'à 3 millions si Nice se maintient en fin de saison. On peut l'écouter, Gauthier Hein, le milieu de 30 ans, qui célébrait d'ailleurs aujourd'hui ses 30 ans, et il évoque les discussions qui l'ont convaincu avec Olivier Pantaloni.
Ce qui m'a convaincu, tout d'abord, c'est le projet de jeu. Ce que le coach m'a dit au téléphone, la manière dont il voulait m'utiliser, pour moi, c'était primordial, parce que moi, j'avais l'objectif déjà de rester en Ligue 1. J'ai l'opportunité Nice, qui est un grand nom du football français, et pour moi, c'était l'occasion de franchir un palier dans ma carrière. Pas fallu grand-chose pour me convaincre, même si ça a un peu duré. Après, ça s'est fait assez rapidement à partir du moment où les négociations ont démarré. Donc, ça a été le choix numéro un, et pour moi, je suis à l'endroit où je dois être.
Ouais, Gauthier Hein qui rejoint Nice. Alors lui a vécu une saison prolifique à Metz avec 8 buts, 8 passes, mais ça s'est soldé, tu le disais Karine, par une relégation. Et puis le gym aussi sort d'une saison ratée avec un maintien arraché en barrage fin mai contre Saint-Etienne. Et bon, ce contexte-là n'inquiète pas Gauthier Hein.
On peut vivre des moments difficiles, un club peut vivre des saisons compliquées, mais il y a toujours un lendemain dans le football. Et moi, j'arrive vraiment à ce moment-là pour essayer d'aider tout le monde à vivre une espèce de renouveau. J'espère que ça va se voir sur le terrain.
Voilà pour Gauthier Hein qui est déjà en jambes, hein, puisqu'il a joué tous les matchs de préparation du FC Metz, qui d'ailleurs démarre son championnat de Ligue 2 demain soir.
On parlait de la saison du rachat pour l'Olympique de Marseille, c'est la même chose pour Nice, Maxime. Il y a eu un changement, on a parlé des changements d'entraîneurs, il y a quasiment plus de la moitié des clubs de Ligue 1 qui ont changé d'entraîneur cet été. Olivier Pantaloni est arrivé. On se dit quoi? Que c'est un vrai joueur de club, Gauthier Hein? C'est vrai qu'il était un joueur important à Metz, il a été capitaine. Bon, après, il y a eu quelques petits soucis. Alors, parfois, il a plus eu ce brassard. Mais on se dit quoi? C'est le vrai joueur de club qui peut aider les Niçois à retrouver un petit peu de stabilité?
Bah, c'est surtout un joueur, oui, en fait, qui correspond aux 3-4.
J'ai lancé Maxime. Et...
Excuse-moi.
Non, mais.
Vas-y, Max.
T'as vu, il t'a fait un petit chassé.
Premier poteau, je suis arrivé. Premier poteau, premier servi. Max,
on est samedi 16h en première ligue.
C'est viril, mais correct. Non. C'est vrai que c'est un joueur qui coche beaucoup de cases, parce qu'il connaît très bien le championnat, il a du vécu, de l'expérience, il a longtemps porté le brassard à Metz, et puis sportivement parlant, c'est une touche de créativité et d'altruisme dans un effectif qui, la saison dernière, a beaucoup pêché offensivement. Donc voilà, il doit devenir le pendant d'un Sofiane Diop qui est finalement peut-être parti pour rester. Il reste encore pas mal de temps, mais voilà, on a évoqué ces derniers jours déjà avec Elton et David la situation notamment salariale de Sofiane Diop, qui fait que c'est pas toujours évident pour lui de trouver une porte de sortie. Donc voilà, dans ce 3-4-3, Gauthier Hein et Sofiane Diop devraient se retrouver en soutien d'un attaquant qui pour l'instant n'est pas identifié identifié. Ce pourrait être Eli Wahi, c'est le rêve des supporters comme des dirigeants niçois. Mais en l'état, voilà, le trio offensif commence à se dessiner avec un Gauthier Hein qui connaît très bien la Ligue 1, le championnat, mais qui aussi, dans un vestiaire, peut avoir un rôle important autour de jeunes joueurs à Nice.
David, Gauthier Hein, bon, oui. Franchement, vas-y. Nice a besoin de touches techniques avec Gauthier Hein, ils l'auront.
Oui, tout à fait. Et puis, enfin, Max l'a dit, c'est, d'un point de vue tactique, dans son espèce de 3-4-2-1 avec les deux meneurs derrière la pointe, c'est vrai que c'est un joueur qui correspond aussi avant tout à leur budget. Mais après, Nice avait besoin de Gauthier Hein, mais Gauthier Hein avait aussi énormément besoin de Nice. Gauthier Hein, par rapport à ce qu'il a montré en Ligue 2, où il a même parfois choisi en fait d'aller relever le défi remonté en Ligue 2 plutôt que de rester en Ligue 1, on n'a pas encore assez d'images par rapport à son talent de Gauthier Hein en Ligue 1. Donc il approche ses 30 ans et les performances qu'il a
aujourd'hui.
C'est son anniversaire 7 août. Bon anniversaire.
Bon anniversaire Gauthier.
Maxime lui a fêté.
Gaucho comme on l'appelle comme on l'appelle d'ailleurs. Mais bon anniversaire Gaucho. Et moi j'ai pas encore assez d'images de Gaucho en Ligue 1 malgré un talent certain. Il suffit de voir en fait sa panoplie, notamment son but en finale de barrage Ligue 2 pour son
province.
Absolument.
Et tu peux le dire aujourd'hui, Nice sur son CV, c'est son pic. C'est son pic clairement pour Gauthier Hein. Moi, ce qui m'intéresse, et on en a déjà parlé, c'est la redéfinition du projet niçois, axé notamment sur des joueurs de rendement immédiat, des joueurs qui connaissent notamment l'objectif maintien, que ce soit à Bergel, même si Lorient a fait 9e l'année dernière, et donc Gauthier Hein, l'accent sur l'expérience. Dans la mesure où il y a la succession de Dante. Et moi, j'aime bien notamment ces joueurs qui sont aussi des capitaines d'équipe, ligne par ligne. T'as Gauthier Hein sur le secteur offensif, t'as Bergel sur le secteur milieu de terrain. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour Nice, parce que t'auras besoin d'avoir un cadre, notamment dessiné par des joueurs performants pour l'objectif maintien.
Mais donc Roger Ricord, en fait, je suis pas sûr que Roger Ricord en fait soit très fan ni de la data ni du scouting. Et je pense que là, il est en train de maximiser ses capacités de Roger Ricord. Non, moi, on en avait déjà parlé. C'est vrai que Adama Camara, c'était une piste également, milieu polyvalent qui a joué latéral du PFC. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, Nice, j'entends Opong, suivi par Strasbourg, j'entends Antoine Mendy, avec des montants significatifs. On sait que Nice doit énormément écrémer sa masse salariale et vendre.
Des gens qui, par rapport à la sélection, ont des enjeux. On des marchés, on des fiancés même.
Mais surtout les rares valeurs marchandes.
Bah oui.
Parce que sinon,
Antoine Mendy, c'est une finale de Coupe d'Afrique des Nations.
Et surtout que c'est un joueur polyvalent, il a joué piston, il a joué une défense à 3, défense à 2. Non, c'est un. Et Opong, qui a été acheté à Norrköping 2 millions, je crois, l'année dernière. Il a fait une saison relativement bonne qualité, surtout dans le marasme niçois. Mais j'aime bien ce que le recrutement niçois. Après, j'ai un peu peur que l'effectif soit un peu rachitique à la fin du mercato, parce que eux ont vraiment moins de marge de manœuvre qu'un club comme l'Olympique de Marseille, et sans être insultant pour la direction sportive en place, peut-être moins d'idées aussi.
Pourquoi tu trouves que par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien? Moi, je trouve que par exemple, Abergel, qui évidemment retrouve son entraîneur, c'est une bonne idée. Gauthier Hein, c'est une bonne idée aussi. C'est cohérent, les deux qui sont arrivés.
C'est ce que j'ai dit.
Kevin Carlos qui est arrivé, tu disais Boudiou et ça a été un fiasco. Là, t'as deux joueurs qui connaissent la Ligue 1, qui sont estampillés Ligue 1 et qui sont finalement aussi des joueurs qui ont quand même fait de bonnes saisons. Ils restent pas sur un échec, là.
C'est bien, mais je pense qu'avec les finances niçoises, tu vas avoir besoin de faire preuve quelque part
d'ingénierie,
de plus de créativité. Et je suis pas sûr que Roger Ricord, qui est quelqu'un
Mais pourquoi tu arrêtes avec ce bon vieux Roger?
Mais non, j'aime bien Roger Ricord, mais si demain, en fait, si tu veux, je veux une politique pour recruter à bas coût, pour être un peu créatif, pour faire un peu de data, de scouting, pour compléter un effectif avec une santé financière précaire, je suis pas sûr en fait que ce soit vers lui que je me serais tourné.
En tout cas, Roger Ricord, en revenant à Nice, il a retrouvé quelques vieilles connaissances de la cellule de recrutement, qui ces dernières saisons a été quand même pas mal court-circuitée, parce que les directeurs sportifs en place avaient leur propre réseau, on va dire. Mais là, dès ses premières déclarations, Roger Ricord a dit qu'il s'appuierait davantage sur la cellule de recrutement et notamment sur les hommes qui ont fait leurs preuves par le passé, parce que Nice a su aller chercher au Portugal notamment un Jean-Michel Seri alors qu'il était totalement inconnu en France, un Dalbert, enfin voilà, Ricardo Pereira pour ne citer que le marché portugais. Mais il y a eu des idées à Nice, et l'objectif c'est que Nice ait de nouveau ses phases, de nouveau du moins ses bons coups. Mais pour cela, d'abord, il va falloir en effet continuer les écrémage. Avec les départs espérés de Kevin Carlos, ça se profile bien du côté de Cagliari. Avec Mohamed Ali Chou aussi qui est évoqué à Hull City. Donc voilà.
Et on, c'est une très belle vente.
Ça c'est important, ouais. Ce que tu dis, Maxime, notamment l'importance redonnée à la cellule de recrutement. Ça fait un peu écho à ce qui s'était passé pour l'Olympique Lyonnais l'été dernier, où en gros la cellule de recrutement était court-circuitée par des histoires d'agents. Mais dès lors qu'il y avait moins de moyens, on a davantage fait confiance, notamment à leurs capacités. Moi, je n'oublie pas qu'il y a 10 ans, en rapport qualité-prix, Nice était érigé en exemple par rapport à sa cellule de recrutement.
Mais c'était court-circuité par quoi, en fait? C'était pour, c'est quoi? C'est Florian Maurice, en fait, qui court-circuitait? Enfin, parce que,
il y avait quand même. Ils avaient leur réseau. Il y a eu aussi Florent Ghisolfi aussi, avant ça, qui travaillait avec ses connaissances, son marché, des joueurs qu'il avait déjà étudiés aussi du côté de Lens avant ça. Je pense à Youssouf Ndaïchimié qui est arrivé quelques mois plus tôt. Il devait s'engager avec le Racing Club de Lens et tout était quasi ficelé. Finalement, ça s'est pas fait, mais du coup, l'idée a été reprise du côté de Nice pour enchaîner et ainsi de suite. Moïse Bombito, enfin voilà. Mais en tout cas, du côté de Nice, pendant longtemps, on estime, notamment chez les recruteurs, que bon, voilà, on a fait en sorte d'aller sur des joueurs qui n'étaient pas forcément ceux les plus préconisés. Je pense notamment à Kevin Carlos, qui voilà, il y avait eu du côté de la cellule de recrutement quelques recruteurs qui étaient un petit peu pas totalement convaincus par son profil et sa compatibilité. Exactement. Merci.
Merci beaucoup, Maxime. Et on peut retrouver donc ton entretien de Gauthier Hain sur le site rmcsport.fr. Et évidemment, la première journée, Nice-Lorient, les retrouvailles entre Pantaloni et les Merlus. Dans quelques instants, on parlera de mon chouchou, de ma pépite, Akliouche, qui a décidé de signer au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il peut se faire une place à Paris? On parlera également du mercato avec beaucoup de mouvements. On est ensemble sur RMC. Ne bougez pas, tout de suite.
RMC, l'after food.